des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture, le magazine des rencontres aussi, puisque cette semaine on parle de déracinement, on parle d'exil, on parle de se trouver une langue, comme on se trouve une maison, avec l'écrivain et universitaire japonais Akira Mitsubayashi, spécialiste de la littérature du siècle des Lumières, de Rousseau, et l'écrivain haïtien Louis-Philippe D'Alembert, tout juste auréolé du prix de la langue française. Bonjour Louis-Philippe D'Alembert.
Bonjour.
Et bonjour Akira Mitsubayashi.
Bonjour.
Et félicitations à vous aussi d'ailleurs, parce que vous aviez pour votre premier livre écrit en français, une langue venue d'ailleurs, vous aviez reçu plusieurs prix, dont celui du rayonnement de la langue et de la littérature française, c'était en 2011. Donc bravo.
Merci.
Voilà, et bravo Louis-Philippe D'Alembert.
Merci.
Deux auteurs donc fêtés pour leur sens de la langue dans ce temps des écrivains. Cet automne, vous publiez l'un et l'autre deux romans très forts parce qu'ils interrogent à la fois l'arrachement à la terre natale, à ce qu'on aime, à ses parents, et la possibilité de retisser les fils de ce qui a été déchiré. Par la traversée d'un mur, celui de la mer Méditerranée pour les trois personnages féminins de Louis-Philippe D'Alembert, c'est même le titre, Mur Méditerranée, c'est publié chez Sabine Vespizer, et déchiré par la guerre pour le héros d'Akira Mitsubayashi, qui voudrait faire entendre à nouveau la musique que jouait un père disparu par les vertus d'un violon dont il s'agira de réparer l'âme, on en parlera. Et ça s'appelle « Âme brisée », c'est chez Gallimard. On commence avec vous, Louis-Philippe D'Alembert. Vous avez publié un premier roman en 1996 qui était tout à fait personnel et dont le titre était « Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme », où il était déjà question de déracinement, de séparation. Et comme les personnages de votre dernier livre, ils regardaient la rive et leur passé s'éloigner. À l'époque, on était dans un... C'était une voiture, en fait, qui quittait, ils changeaient de quartier. Là, il s'agit de femmes qui voient leur passé et la rive de leur pays natal, de leur continent d'ailleurs natal, s'éloigner depuis le chalutier qui les emmène vers l'Europe. Ça s'appelle donc Mur Méditerranée chez Sabine Vespizer. Au fond, on en revient toujours à ce thème que vous exploriez d'ailleurs aussi dans L'autre face de la mer en 1998, la rive qu'on quitte, la mer qui nous emmène.
Oui, c'est récurrent, j'ai envie de dire, chez moi. C'est aussi le fait, j'imagine, d'être caribéen. On ne naît pas caribéen, on ne grandit pas dans la Caraïbe impunément. C'est toute une histoire. C'est l'histoire de la création de ces peuples, de ces cultures. On est venu en grande partie par bateau et on vit à côté de la mer et on est fasciné par la mer, mais en même temps, on a très peur de la mer. Les trois quarts des Caribéens, par exemple, ne savent pas nager. Donc, il y a cette peur presque ancestrale qui est là. Il y a ce qui me fascinait, moi, dans mon enfance, par exemple, à Port-au-Prince, je vivais dans un quartier au sommet d'une colline d'où je voyais toujours la mer au loin. Donc, enfant, c'était extraordinaire. J'inventais des histoires, je voyais les bateaux qui entraient et sortaient du port comme ça, et j'inventais vraiment des histoires. J'y mettais des personnages, des gens qui partaient, qui revenaient et tout. Donc, c'est quelque chose qui est là et qui, depuis, a traversé tout mon travail. Ce roman-ci dont vous avez parlé, donc Mur Méditerranée, même le roman précédent aussi, le roman précédent Avant que les ombres s'effacent, qui raconte l'histoire d'un personnage juif qui quitte la Pologne en passant par Berlin, Paris, etc. Donc il va monter sur un bateau pour aller à Cuba et revenir. Donc c'est une thématique qui est vraiment, j'ai envie de dire, fondatrice pour moi.
Alors dans ce livre Mur Méditerranée, qui vous a été d'ailleurs soufflé par la réalité, inspiré par la réalité, puisque vous avez été marqué en fait par le sauvetage d'un bateau de clandestins pendant l'été 2014, qui ont été sauvés par un pétrolier danois, le Torm Lotte. Ce livre nous raconte, hein, je le disais, un déracinement, je devrais plutôt dire d'ailleurs trois déracinements, trois exils, trois déchirements au féminin, puisque nous suivons trois femmes, trois personnages qui doivent quitter leur maison et leur terre. Alors il y a Shoshana, la juive nigériane, Semhar, la chrétienne orthodoxe qui vient d'Érythrée, et Dima, la musulmane syrienne, trois femmes que la foi, la langue, la classe sociale aussi séparent, mais qui aspirent toutes les trois à une vie meilleure en Europe qu'elles vont gagner en traversant la mer, qui hélas ne s'ouvre pas sous leurs pas comme dans les textes bibliques, mais qui vont se retrouver dans le même chalutier parce que leur chez-elle n'est plus leur chez-elle, parce que la guerre, parce que la dictature, parce que la sécheresse en ont fait trois migrantes. Je vais mettre des guillemets à ce mot migrant, parce qu'en fait, vous les mettez sans les mettre dans votre texte, Louis-Philippe d'Alembert. Vous ne l'employez ce mot qu'avec des pincettes, en soulignant constamment que cette dénomination, en fait, elle appartient aux Européens. Je vous cite. L'un des arguments principaux des pays européens pour ne pas accueillir ceux qu'ils appelaient les migrants, ou les migrants, comme on les appelait, furent emmenés. Quel est votre rapport à ce mot nouveau? C'est vrai, il est vrai. Avant, on parlait d'immigration, on parlait d'émigration. On ne parlait pas de migrants, comme si tout préfixe avait été coupé. Pourquoi vous avez désiré prendre d'emblée, en fait, une distance avec ce terme qu'on entend tout le temps aujourd'hui?
Pour moi, ce participe présent, donc, de migrants, ça me laisse l'impression que c'est un état permanent, c'est-à-dire que c'est déjà en perpétuelle migration. Or, ce n'est pas une identité, c'est juste une étape dans la trajectoire d'une vie. De mon temps, on parlait plutôt de « boat people ». Par exemple, pour les Vietnamiens qui fuyaient le régime politique qui partait en mer de Chine, on parlait aussi pour la Caraïbe des boat people pour les Haïtiens et les Cubains et qui essayaient de fuir leur pays pour aller vers les États-Unis.
Les balseros aussi.
Ou les balseros, c'est justement voilà. Pour les Cubains aussi, c'est-à-dire voilà. Les balseros, ceux qui partaient sur des pneus gonflés pour pouvoir qu'ils prenaient la mer, mais vraiment dans des conditions très très dures. Donc on parlait de ces gens-là, de ce mot-là qui n'avait pas cette connotation, j'ai envie de dire, définitive. Quand on parle de migrants ou de migrantes, dans le cas précis de ce roman, donc comme vous l'avez si bien souligné, ce sont des femmes, on a l'impression que c'est un état permanent. Or non, c'est juste une trajectoire, et vous l'avez dit, Dima, la Syrienne, elle vit chez elle, elle n'avait pas du tout envie ni aucune intention de partir. Elle finit par partir à cause de la guerre, les pluies de bombes qui s'abattent sur Alep. Et puis au bout d'une année, dans les caves avec sa famille, elle se dit qu'il faut partir en fait.
Et d'ailleurs, dans Migrant, vous disiez, il y a le participe présent, mais il y a aussi le préfixe qui est abandonné. C'est-à-dire immigrant donnait au moins un mouvement. Alors que migrants, on ne sait pas quelle est la direction d'ailleurs.
On ne sait pas la direction, on ne sait pas d'où ils viennent non plus. Or, dans le roman, je m'attache à montrer d'où elles viennent, ces femmes-là, c'est-à-dire d'où elles viennent.
Oui, parce qu'il y a la vie d'avant que vous racontez.
Ce qu'a été leur vie, ce dont elles rêvaient. Et Shoshana voulait devenir, par exemple, avocate. Semar voulait devenir institutrice. Et Dima, qui travaillait déjà, qui avait une vie bien rangée.
Ça, c'est intéressant. On en reparlera parce que c'est vrai que même politiquement, il y a une intention de, en disant qui sont justement ces migrants, entre guillemets, et que c'est pas des gens qui n'étaient rien avant d'être migrants et qui ont quitté justement une vie parfois extrêmement construite. Akira Mizubayashi, vous venez aujourd'hui pour Âme brisée, donc votre nouveau roman chez Gallimard, un livre écrit en français comme une langue venue d'ailleurs, votre essai consacré à la langue française. Vous êtes, vous le dites souvent, un écrivain d'expression française. C'est comme ça que vous définissez.
Oui, le mot écrivain m'effraie un petit peu. Oui. Je dirais que je suis un auteur japonais de langue française.
Voilà. Vous dites, je n'habite pas la France. Ce n'est pas la France que j'habite, c'est la langue de ce pays que j'habite. Voilà.
Oui, c'est de ma part une manière de dire que je n'habite pas la France. J'habite seulement cette langue qui me fascine. Ouais. Voilà.
Oui, vous vivez à Tokyo, principalement.
Oui, je vis principalement à Tokyo, oui.
Et vous êtes l'auteur, aux éditions Arléa, d'un petit livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé et j'aimerais citer. C'est vraiment un conseil de lecture que j'offre aux auditrices et aux auditeurs, en dehors de Dames brisées et de Murs méditerranéens, Le bain japonais, qui était ce livre sur ce lieu, cette habitude, cette coutume, cet art d'être ensemble, d'être avec l'autre.
Ouais. C'est ça. Alors, le titre de ce livre, Le bain japonais, c'est le sous-titre. Le titre du livre, c'est Dans les eaux profondes. Et effectivement, j'ai pris comme point de départ le thème du bain. J'ai trouvé que c'était intéressant de parler du bain japonais dans la mesure où il révélait quelque chose qui relève du politique japonais, c'est-à-dire la manière d'être ensemble. Et donc je pars du thème du bain, mais pour aller dans des régions qui n'ont pratiquement pas
à voir
avec le bain. C'est pour aller dans l'exploration du politique japonais, de la manière de tisser des relations sociales avec autrui.
Alors l'art d'être ensemble, il aurait pu en être question dans « Âme brisée ». L'histoire d'une langue aussi, comme foyer, la patrie, rester ensemble avec sa famille aussi. Sauf que malheureusement, pour votre personnage, pour votre héros, ça n'a pas été possible. L'âme, d'ailleurs, a un double sens. On le découvre dès l'exergue de votre livre où vous citez le trésor de la langue française. L'âme d'un instrument à cordes et la petite pièce de bois interposée dans le corps de l'instrument, entre la table et le fond, qui les maintient à la bonne distance pour assurer la qualité et la propagation des vibrations. Et l'âme qui est brisée est donc ici à prendre au sens propre. C'est un instrument de musique qui est brisé. Tout commence au milieu d'une répétition de musiciens amateurs de Schubert autour du père de votre personnage principal. On est à Tokyo, on est en 1938, la guerre sino-japonaise fracture absolument le pays et la région. Et d'autant plus fort que ce professeur japonais fait répéter des étudiants chinois. Ils veulent jouer simplement en plein cœur du conflit et évidemment jouer ensemble est déjà quelque chose qui les fait suspecter d'être des traîtres finalement à leur nation respective. Et quand le livre commence, on assiste à une scène d'ailleurs très cinématographique, très très forte, d'un petit garçon de 11 ans qui est caché dans une armoire et qui assiste impuissant à la scène terrible. On emporte son père, on casse le violon avec lequel il jouait, et en fait un officier fait semblant de ne pas la voir et lui transmet justement la relique précieuse, ce violon, et il n'aura de cesse d'essayer de réparer ce violon. C'est une histoire d'errance aussi, ce n'est pas un migrant, mais presque. Il passe du Japon à la France, on ira à Crémone aussi, on ira à Shanghai, et vous nous contez, Akira Mizubayashi, la tentative réussie, au fond, de filiation retrouvée entre un père violoniste et un fils devenu luthier, et le long cheminement d'un violon qui était finalement condamné à être silencieux à jamais, et qui va pouvoir reparler, retrouver la vibration, mettant fin à ce déracinement originel. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans ce livre, et ce qui est singulier, c'est que ce retour à l'origine, il exclut tout nationalisme, toute biologie, toute idée de frontière, puisque au fond, c'est ce qui échappe aux frontières, qui scelle cette réconciliation et cette réparation, c'est la musique. C'est aussi votre langue qui dit la musique. Et puis c'est un livre aussi qui va servir de témoin.
Oui.
Voilà, un livre qui avait été offert par le père à son enfant. « Dites-moi comment vous allez vivre » de Kenzaburo Yoshino. Oui. C'est un livre que vous nous conseillez de lire aussi.
Il n'est pas traduit.
Vous allez le faire peut-être.
Non, c'est pas moi, mais j'ai appris au cours d'une rencontre en librairie que ce livre était en train d'être traduit.
Bon,
donc ça apparaîtra peut-être l'année prochaine, oui.
Encore une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce livre, justement, qui est transmis ?
C'est un livre qui a été publié en 1937, c'est-à-dire un an avant la scène inaugurale. Et c'est un livre qui a été écrit donc dans ce contexte militaro-fasciste où tout le monde était soumis à la pensée unique, l'adoration de l'empereur, du système impérial, etc. Et c'est un livre dans lequel l'auteur ose conseiller aux petits citoyens japonais, puisque à l'origine, ce livre a été publié dans la bibliothèque des petits citoyens. Et donc l'auteur a le courage de conseiller aux petits japonais de garder toute leur lucidité en dépit de tout, en dépit de cette circonstance belliciste qui divise les hommes, les japonais d'un côté, les chinois de l'autre, mais même à l'intérieur des japonais, la division sévit, et puis du côté chinois aussi. Ouais. Et c'est pour ça que il m'a semblé intéressant de faire appel à la musique pour dépasser justement ces divisions nationales, ethniques.
Linguistiques.
Voilà, donc la musique est là comme quelque chose, un moyen universel, un moyen qui permet d'atteindre à la dimension universelle pour unir les hommes qui sont divisés.
Est-ce que l'art est un remède justement au déracinement? Est-ce que l'art est finalement la possibilité de se donner de nouvelles racines? Ce qui pourrait être la leçon d'ailleurs de votre âme brisée.
Dans le cas de ce personnage principal qui s'appelle Rei Mizusawa et qui est en même temps Jacques Maillard...
Oui, quand il est adopté.
Oui, ce qu'il faut retenir peut-être de la violence traumatique qui a frappé ce petit garçon de 11 ans, c'est le fait que le temps s'est arrêté, le temps s'est figé, le temps s'est fossilisé à la suite de cet événement décisif. Et alors il est doté d'une mémoire particulière, d'une mémoire qui n'oublie pas. J'emprunte cette expression à un ami psychanalyste. Le propre de la mémoire, c'est la capacité d'oublier. Mais lorsqu'un événement traumatique intervient, le temps s'arrête, le temps se fossilise. Et une zone de catastrophe s'ouvre, des fantômes apparaissent. Alors le problème pour le personnage principal, c'est de savoir comment sortir de ce temps arrêté, de ce temps fossilisé, et finalement comment guérir de cette blessure première. Et dans le cas de ce personnage principal, comme son père était un musicien amateur, la solution qui s'est ouverte devant lui, c'est celle de la musique, et en particulier de la lutherie, mais en même temps, c'est la voie de la littérature aussi, puisque...
Oui, c'est pour ça que je disais l'art en général, c'est ça, musique voilà, et la littérature.
Et dès le début de mon livre, on voit ce petit garçon plonger dans la lecture d'un livre, le livre que vous avez cité tout à l'heure, Dites-moi comment vous allez lire.
Voilà.
Comment
qui est un beau, très très beau titre de roman, hein, Louis-Philippe d'Alembert. Je voudrais vous demander à tous les deux, au fond, on comprend bien, il y a une fiction très forte dans chacun de vos livres, dans Mur Méditerranée et dans Âme brisée, des destins, du déracinement, mais derrière, évidemment, un propos. Propos en faveur de l'art contre la barbarie chez vous, Akira Mizubayashi. Et propos, on le voit bien avec Mur Méditerranée, c'est presque biblique d'ailleurs. On sent la volonté chez vous, Louis-Philippe d'Alembert, de donner une voix à ceux qui sont réduits en fait à ce mot d'ailleurs de migrants. Leur donner une voix, leur donner un passé, leur donner, on l'espère, un avenir. Comment on fait quand on est écrivain pour se tenir sur ce chemin de crête entre le message et rester dans la poésie, entre ce qu'on appelle un propos sur l'époque, etc., et le récit, de rester dans la fiction. Parce que c'est ça, c'est un chemin de crête que vous empruntez aussi, Louis-Philippe d'Alembert.
Oui, tout à fait. Je voulais juste avant dire une chose, parce que je ne voulais pas vous interrompre tout à l'heure, quand vous avez parlé d'Akira Mizubayashi comme d'un écrivain de langue ou d'expression française. Je trouve ça...
C'est lui qui le dit.
Je trouve ça tellement plus beau que francophone. Oui. Il y a une connotation, j'ai presque envie de dire, néocoloniale, en fait, derrière ce mot francophone. Pourquoi? Parce que, justement, en général, les écrivains français de l'Hexagone ne sont pas...
Alors qu'on est francophone.
Alors qu'ils sont
jusqu'à
francophones.
Preuve du contraire. Justement, on essaie.
Justement, c'est justement ça. Et donc, où tout le monde est francophone, où tout le monde est écrivain d'expression de langue française, je trouve ça beaucoup plus beau.
Et ben voilà, d'expression française. Et puis l'expression, c'est tellement un mot très très fort aussi. Alors justement, maintenant, vous pouvez répondre à ma question.
Oui, donc pour en revenir à la question, comment on passe justement et comment on traverse cette ligne de crête, déjà en restant, j'ai envie de dire, attaché à ces personnages, hein, à leur histoire, à ce qu'elles vivent, ces trois femmes. Vous parliez tout à l'heure de déracinement, ou d'éloignement. Ce sont trois femmes qui ont mis toute leur énergie, tout leur être est tendu vers le fait de laisser leur terre natale. Mais au moment, par exemple, où le bateau s'éloigne de Sabrata, Shoshana, la Nigériane, elle ressent un sentiment assez mélangé. Elle n'arrive pas à expliquer ce qu'elle ressent. C'est-à-dire que, alors qu'elle avait... Elle a passé presque 2 ans à essayer de se battre, à vivre dans des conditions très difficiles pour sortir de cette terre natale, de s'en éloigner. Et au moment où le bateau s'éloigne, elle a l'impression que toute sa vie lui échappe. Et elle va complètement vers l'inconnu.
Mais en tant qu'écrivain, justement, comment, en fait, vous lui faites faire ce que vous voulez à Shoshana ou à Sabrata?
Pas toujours.
Pas toujours, ah oui.
Pas toujours, parce que... je ne sais pas, vous en avez peut-être vous-même fait l'expérience, ou les deux qui sont là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les personnages peuvent nous échapper. Et d'autant que moi, je me mets dans la peau d'un certain nombre de femmes, je dois être en empathie avec ces femmes-là, même un personnage comme Dima, qui est une Syrienne bourgeoise assez xénophobe et méprisante, mais à un moment donné, je dois être en empathie avec elle et avoir des sentiments qui ne sont pas les miens au départ.
Ce que vous voulez dire, Louis-Philippe d'Alembert, c'est qu'en tant qu'écrivain, il faut être attentif à ce mélange que vous avez utilisé pour ne pas que le politique l'emporte justement sur l'émotion, sur la nuance, au fond,
tout à fait,
qu'expriment les personnages.
Et surtout, quand je dis être en empathie avec le personnage, c'est-à-dire ne pas juger le personnage. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour juger le personnage, je suis là pour essayer de le comprendre et de le rendre le plus proche possible de la réalité. Et justement, par rapport à un sujet comme celui-ci, qui est un sujet très clivant, donc comment arriver à dire la réalité de ces gens-là, à dire juste leur histoire, à leur donner, comme vous l'avez dit vous-même, un visage, à leur donner une histoire, à leur donner des aspirations, des rêves, mais sans tomber justement dans le côté clivant ou en accusant une partie du monde contre une autre partie du monde.
On en reparlera évidemment tout à l'heure, mais c'est vrai que Marie Dariussec, qui est venue d'ailleurs dans cette émission, parle d'un sujet casse-gueule, c'est son expression. Mais en même temps, voilà, on questionnera ça. Pourquoi ça serait casse-gueule, d'ailleurs, de parler de ça? À chaque fois, les écrivains sont tenus de s'expliquer sur leur voyeurisme. Mais au fond, est-ce que le métier d'un écrivain, c'est pas de voir, voilà, d'être parfois, d'ailleurs, voyeur? Mais on en reparlera, Louis-Philippe d'Alembert. Akira Mitsubayashi, comment vous êtes-vous efforcé, d'ailleurs, de rester sur ce chemin de crête entre, c'est vrai, la grande poésie de l'histoire que vous racontez, et en même temps, ce message universel de l'art, de la littérature, de la transmission de la beauté contre la barbarie, si tant est qu'elle puisse faire pièce à la barbarie.
Pour répondre à votre question, peut-être il faut que je parle des origines de ce livre, de la naissance de ce livre. C'était en septembre 2017. Mon éditeur Jean-Marie Laclavetine m'a demandé si je ne voulais pas participer à l'ouvrage collectif qu'il préparait à ce moment-là sur l'armistice. J'ai dit oui, sans réfléchir trop profondément sur ce que j'allais écrire. Et en rentrant à Tokyo, à la fin du mois de septembre, j'ai commencé à me documenter et j'ai appris au cours de mon travail de documentation que le jour même de l'armistice, il y a eu plus de 2000 soldats qui ont été tués. Et le dernier soldat français qui a été tué, il s'appelle Augustin Trébuchon. Il est mort à 11h moins 5, quelque chose comme ça. Donc 5 ou 6 minutes avant.
La date,
c'est le 11 novembre 1918. À 11h, les combats se sont arrêtés à 11h précises. Mais ce soldat français, Augustin Trébuchon, a été tué. Et quand j'ai appris ce fait historique, il y a une expression japonaise qui m'est venue à l'esprit, c'est « shindemo shinikirenai ». Ça veut dire à peu près ceci, même si je meurs, je ne pourrai pas aller jusqu'au bout de ma mort. Et je me suis dit, peut-être ce soldat français, s'il avait mis, par exemple, un quart d'heure, comme dans un opéra de Verdi, pour mourir, il se serait dit certainement ce mot-là. Je n'arriverais pas à aller jusqu'au bout de ma mort.
Qu'est-ce que ça signifie d'ailleurs, ne pas aller jusqu'au bout de sa mort, justement?
C'est-à-dire on devient un fantôme. Donc, c'est à ce moment-là que ce roman, l'histoire que j'ai racontée dans ce roman est née. Je me suis dit, il faut que je raconte l'histoire d'un fantôme. D'où je dédie ce roman à tous les fantômes du monde. Donc le personnage du père dans ce roman, c'est un fantôme.
Une ombre.
Et j'ai voulu raconter l'histoire de ce fantôme qui peut être considéré comme le représentant de tous les fantômes du monde.
Merci beaucoup Akira Mitsubayashi. On va reparler d'âme brisée avec vous. Vous êtes en compagnie de Louis-Philippe d'Alembert qui publie Mur Méditerranée chez Sabine Vespizer. On va commencer d'ailleurs avec vous, on va plonger dans le destin de ces migranteux, entre guillemets, voilà, puis on changera le mot en termes d'émission, on va en trouver un
tout
autre.
Tout à fait.
Hein. On écoute d'abord votre choix musical. Vous avez choisi un extrait de Nabucco, Va pensiero sul alidorate. C'est le chœur des Hébreux, en fait, sous la direction de Claudio Abbado, l'orchestre du théâtre de la Scala de Milan. Et le chœur du théâtre de la Scala de Milan, nous écoutons.
France Culture, le temps des écrivains,
Christophe Onodibio.
Pensiero, c'est un extrait de Nabucco, extrait du troisième acte de l'opéra de Verdi. Alors c'est le choix de Louis-Philippe d'Alembert qui publie Mur Méditerranée chez Sabine Vespizer. Il est en compagnie de Akira Mitsubayashi qui publie Âme brisée chez Gallimard. C'est un chant, on disait en écoutant Louis-Philippe d'Alembert, qui parlait extraordinairement aux Milanais, parce qu'en fait c'est un passage qui concerne dans Nabucco les esclaves hébreux qui se rappellent leur patrie perdue. Et les Milanais étaient presque exilés à domicile puisqu'ils étaient occupés par les Autrichiens. Vous disiez d'ailleurs à Akira Mitsubayashi que c'était un chant de résistance aussi. Pourquoi ce choix musical ?
Parce qu'on le retrouve dans le livre, hein, le personnage de Shoshana qui est juive, juive Ibo, parle de la captivité des Hébreux et en même temps elle est aussi captive, elle est prisonnière dans un entrepôt avec son amie Rachel et son amie Semar et Meaza, donc ça lui vient automatiquement, mais c'est une chanson qu'elle avait apprise on va dire, pas en pensant aux Hébreux au départ, par amour tout simplement de son professeur d'italien. Elle était jeune, adolescente de 17 ans dans son lycée, et elle avait un professeur d'italien qui était beau comme un dieu, dit-elle, et elle est amoureuse du prof, elle ne sait pas comment faire. Bon, pour essayer d'attirer son attention, le prof leur apprend l'italien à travers un certain nombre de chansons comme ça, et elle apprend cette chanson, et au moment où elle se retrouve enfermée dans le bateau, dans la cale du bateau, et cette chanson qui lui vient à l'esprit, donc qui à la fois elle revoit son pays perdu, comme il en est question dans la chanson, et puis elle se demande qu'est-ce qu'elle va devenir en fait. Et c'est l'un des plus beaux opéras de Verdi d'abord, mais surtout italien, ce qui est très très connu en Italie, et qui a été joué souvent sur les places publiques dans des villes comme Naples, comme Rome, comme Vérone par exemple, et il suffit que les premières notes tombent pour que tout le public se mette à chanter. Tout le monde connaît, c'est vraiment un opéra très très populaire au sens, j'ai envie de dire, noble du terme, quoi.
Alors dans Mur Méditerranée, on est avec donc trois femmes, trois déracinées, trois migrantes. Alors on change le terme tout de suite peut-être, hein. On disait migrants, ça ne va pas, ce participe présent.
Pour moi ce sont des réfugiés.
Donc on dit trois réfugiés, on va dire tout de suite, on ne prononcera plus le mot migrant. pendant, dans cette émission. On parlera de réfugiés ou de déracinés. Trois femmes, trois personnages qui quittent donc leur chez-soi, qui n'est plus en fait leur chez-soi. Donc Shoshana, la juive nigériane, Semar, la chrétienne orthodoxe qui vient d'Érythrée, et Dima, la musulmane syrienne. Ces trois femmes que tout oppose, hein, si ce n'est le fait de venir de l'autre côté de la Méditerranée. Mais tout les oppose, la foi, hein, ce ne sont pas de la même religion, la langue, ce n'est pas la même langue, la classe sociale, de la bourgeoise à la fille du peuple. Et pourtant, enfin pourtant, c'est aussi la magie de ce roman, vont se retrouver dans le même lieu, c'est-à-dire le chalutier qui les emmène vers, on l'espère, une vie meilleure en Europe. C'est une histoire qui vous a été inspirée par le sauvetage en fait d'un bateau de clandestins l'été 2014 par un pétrolier danois. Hein, et là, je vais prononcer son nom car c'est tout à son honneur, hein, le Torm Lotte. Trois femmes à qui vous redonnez une vie, à qui vous redonnez un passé, à qui, on l'espère, vous redonnez aussi un futur. Et je voulais revenir, on vient d'écouter Nabucco, il est beaucoup question d'épisodes bibliques aussi dans Mur Méditerranée. Déjà, Mur Méditerranée pour Mer Méditerranée, et moi je pense effectivement à la mer qui s'ouvre, à ce mur qui s'est ouvert devant les pas de Moïse et qui ne s'ouvre plus justement pour ces réfugiés. Mais il y a un autre épisode aussi, celui des murailles de Jéricho dont vous parlez, ville qui refusait l'arrivée du peuple errant, et murailles qui furent fracassées par le son, là on revient à la musique Akira Mizubayashi, le son des fameuses trompettes de Jéricho, des murailles qui étaient réputées infranchissables et qui se sont écroulées pour que le peuple puisse entrer. Quand on traite d'un sujet aussi contemporain, éternel aussi, mais en tout cas contemporain, un sujet qu'on voit beaucoup aux informations, comme on dit, qu'est-ce que ça apporte de revenir justement à ces grandes épopées bibliques ou antiques, dantesques, je pourrais dire? Qu'est-ce que ça donne en fait quand on est romancier, de convoquer justement ces grandes épopées, ces miracles au fond?
Oui, ça permet d'être dans le présent, donc, d'une part, mais en même temps dans la continuité, j'ai envie de dire, de l'histoire humaine. Ce sont des événements que malheureusement d'autres peuples ou d'autres, dans d'autres régions du monde ont déjà vécu et que aujourd'hui ces gens-là sont en train de vivre. Donc l'histoire, d'une certaine façon, bégaye, l'histoire se répète. Donc ça, j'essaie de l'ancrer dans une forme d'universalité en fait. Et de montrer que ces gens-là qui viennent justement, vous l'avez dit, du continent africain et du Moyen-Orient, aujourd'hui vivent ce que d'autres peuples avaient déjà vécu
De l'histoire, Louis-Philippe Lambert, parce que c'est pas uniquement des souvenirs historiques, ce sont des souvenirs mythiques que vous convoquez.
D'où la présence très très forte dans le livre de la religion, par exemple, ou des trois religions,
d'ailleurs,
ce qu'on appelle les religions révélées, justement pour essayer d'enraciner dans cette continuité donc mythique dont vous parlez, et en même temps pour aussi apporter une note d'espoir à ces personnages, c'est-à-dire que les trois femmes sont des femmes très croyantes. Et quand on est croyant, on a l'impression que tout ce qu'on peut vivre comme difficulté, ce sont des épreuves auxquelles Dieu et nous soumet, et que si on y arrive, on va voir la lumière plus loin. Donc, on va trouver la lumière.
Une sorte de stimulus littéraire pour vos personnages, c'est-à-dire une sorte de convoquer des mythes, convoquer des histoires auxquelles elles croient pour supporter l'épreuve.
Pour supporter l'épreuve, parce que autrement, ça aurait été très très difficile. Hein. Mais elles arrivent à avoir l'espoir. Il y a un autre élément au-delà de la foi ou bien des mythes bibliques, par exemple, il y a l'humour aussi chez ces personnages. C'est-à-dire, c'est un autre
très
stimulus.
Important.
C'est-à-dire que c'est ce qui va leur permettre, d'une part, d'être rattachés à la vie d'avant, dont on a parlé tout à l'heure, parce que ce sont des gens avec une histoire, avec des rêves, mais ce sont des gens qui aspirent aussi à autre chose. Donc, et l'humour leur permet de tenir aussi. Donc il y a
la politesse du désespoir.
Ah non, ce n'est pas que justement la politesse du désespoir. C'est vraiment une espèce de lien. C'est ce qui relie justement, qui les relie à la vie d'avant et qui les relie au futur auquel elles aspirent, les trois femmes.
Est-ce que, par exemple, le fait que vous preniez le personnage d'une juive, justement, est-ce que ce n'est pas aussi pour battre en brèche, voilà, on retrouve la muraille, la brèche, le mur, battre en brèche un certain nombre de stéréotypes religieux, justement de montrer qu'il y a d'autres religions que l'islam dans ces gens qui viennent,
justement,
auxquelles on réduit souvent ces réfugiés.
Tout à fait. Et surtout, on sait qu'il y a beaucoup d'Érythréens, et il y a beaucoup de gens qui viennent d'Afrique subsaharienne qui sont chrétiens.
Et
les Érythréens, en grande partie, sont des chrétiens orthodoxes. C'est le cas de Sémar. Et donc, il y a cette peur aujourd'hui que nous avons ici en Europe par rapport à ces réfugiés. Toujours, on a l'impression que c'est une horde de musulmans qui arrivent et qui viennent pour ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus le grand remplacement. Donc, l'idée c'est ça, c'est-à-dire que...
Puis des hommes. C'est vrai que souvent,
on parle d'hommes.
Et là, justement, vous prenez le contrepoint total en choisissant justement trois femmes. Comment vous
le
les avez choisi?
Le contrepoint qui correspond à une certaine réalité.
Bien sûr, le contrepoint de ce cliché, en fait.
Tout à fait.
Comment vous les avez définis, justement, les profils de vos trois héroïnes?
Donc, je voulais justement montrer que parmi ceux qui arrivent, une bonne moitié, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, sont des femmes. Ce sont des femmes. C'est la première chose. Ensuite, montrer que ces femmes qui sont de religion, donc vous l'avez dit, différentes, de classes sociales différentes, finalement, représentent une espèce de concentré du monde, en fait. Les fameuses trois religions révélées, mais il n'est pas question que de ces trois religions. À un moment donné où il y a un des personnages sénégalais qui meurt, et il y a un autre personnage qui va dire une prière dans une langue complètement inconnu, en évoquant Elegba, en évoquant Ogou et mangeur de chiens. Et toutes ces divinités-là, ce sont des divinités qui appartiennent à des religions, dont le vaudou, qui me parle en tant qu'haïtien.
Forcément.
Et forcément, donc, il y a tous ces clins d'œil qui sont là, même si les trois personnages principaux, ce sont les trois religions dites révélées, en fait.
Et justement, comment a joué dans l'écriture de ce livre le fait de porter en vous la mémoire de l'esclavage en tant qu'haïtien?
Ça jouait énormément avec les personnages de Shoshana et de Sémar qui se retrouvent dans la cale du bateau. Donc c'est une mémoire que je porte malgré moi, en fait. Et à partir du moment où ces personnages se retrouvent dans la cale, forcément je repense à la traversée des esclaves pendant la période de la traite négrière. Et ce n'est pas par hasard qu'il y a en exergue une citation d'Aimé Césaire qui dit « Encore une mer à traverser, oh, encore une mer à traverser ».
Et aussi une citation de Cesare Pavese. « Quel monde se trouve au-delà de cette mer, je ne sais, mais chaque mer a une autre rive et j'y arriverai. » Une autre forme de foi. Je voudrais qu'on vous entende lire un extrait, Louis-Philippe d'Alembert, de « Mur Méditerranée », qui commence par cette belle phrase « Personne ne disait mot. »
Personne ne disait mot. Les visages dégageaient un mélange d'appréhension et de tension, à défaut de soulagement de s'en aller enfin du lieu où ils avaient été séquestrés. Sémar et Shoshana non plus ne se parlaient pas. Elles avaient déjà l'esprit tourné vers cet ailleurs où elles espéraient enraciner leurs rêves. Une brise faible leur fouettait le visage sans réussir à chasser les questions qu'elles se posaient depuis qu'elles avaient aperçu le hors-bord. Elles n'avaient osé ni l'une ni l'autre les formuler à haute voix. La traversée se ferait-elle sur ces frêles embarcations? Et si le moteur tombait en panne? Y aurait-il assez d'essence pour arriver jusqu'en Europe? Et s'il rencontrait une tempête en route? En Méditerranée, le vent peut se lever sans crier gare, grossissant les eaux en un éclair. Une fille qui en avait fait la mère expérience avait raconté son histoire à Sémar. Après 3 jours de dérive, accrochés à l'épave de leur bateau, les naufragés avaient été secourus en haute mer par des gardes-côtes italiens qui les avaient refilés à leurs collègues libyens. Retour à la case départ. Shoshana fut prise d'un sentiment soudain de vide. Voir le canot creuser la distance avec le continent africain l'a remplie de mélancolie. Sa décision de partir avait été longuement mûrie pourtant. Ça lui avait pris du temps pour accepter l'idée que la terre matricielle ne pouvait plus la nourrir, qu'elle n'y avait pas d'avenir. Elle avait tant rêvé de ce départ, elle s'était battue, avait surmonté 1000 tourments, affronté vents et marées. Maintenant qu'elle était en passe de concrétiser son rêve, elle eut envie de pleurer.
Merci. Extrait de Mur Méditerranée de Louis-Philippe d'Alembert chez Sabine Vespizer. J'avais une question à vous poser. Vous êtes allé à Lampedusa, vous êtes renseigné, vous avez rencontré justement ces réfugiés. Est-ce que ça vous ennuie pas qu'on vous demande, comme c'est souvent le cas, mais comment faire pour éviter le misérabilisme? Mais comment faire pour éviter le voyeurisme? Après tout, pourquoi un écrivain ne parlerait pas de misère? Et pourquoi il n'aurait pas le droit d'être même misérabiliste s'il a envie de l'être, montrer la misère telle qu'elle est? Pourquoi n'aurait-il pas envie de donner à voir, même d'être voyeur, puisqu'il s'agit aussi de ça, de voir, d'être un voyant. Alors peut-être, là on utilise le participe présent. Ça vous ennuie pas, ça, que sur ce sujet-là, dont je rappelais que Marie Darrieussecq, qui on pose les mêmes questions d'ailleurs, disait que c'était un sujet casse-gueule, mais que c'est le sujet aujourd'hui. Toutes ces questions-là, on dit, oui, mais est-ce que vous n'avez pas eu un écueil? Est-ce qu'il n'y avait pas des choses à éviter? Ça vous ennuie pas qu'on demande des comptes aux écrivains quand ils traitent du sujet des réfugiés?
Bien sûr que ça m'ennuie, mais en même temps, moi, ce qui était important pour moi, ce n'était pas de tomber dans le misérabilisme, entre guillemets. C'est-à-dire que je voulais montrer surtout ce que ces gens-là ont vécu et pourquoi elles partent. Elles racontent leur histoire et j'ai essayé de raconter à chaque page. J'entendais la voix de ces gens, les gens avec qui j'ai pu parler, par exemple. Et quand ils racontent leur histoire, justement, ils n'essaient pas d'attirer la pitié sur leur personne, hein, ce qui est souvent paradoxal vu de l'extérieur. Il y en a beaucoup qui racontent ça avec une pointe d'humour. Alors, il y a toujours un rire qui est un peu coincé dans leur manière de dire les choses, mais c'est un rire, cette fois-ci, parfois de gêne, en fait, de se mettre à nu autant. Donc j'ai essayé, en écrivant, de trouver cette voix-là, de trouver ce ton-là, de trouver à la fois cet humour, mais cette distance oui. par rapport à leur histoire.
Vous dites qu'il fallait faire tout sauf Malraux dans La condition humaine.
Tout à fait.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de si mal?
C'est un livre que j'ai beaucoup aimé adolescent, dans une adolescence très militante. Et c'est un livre, quand je le relis aujourd'hui, j'ai tendance à le trouver un peu dépassé, entre guillemets. C'est-à-dire que l'idéologique avait pris le dessus voilà. sur le romanesque. Or, c'est surtout ça. Quand j'avais 17-18 ans, je lisais La condition humaine, j'étais fasciné. J'étais prêt à faire tout ce que Tienne faisait comme personnage, et à déposer une bombe, à faire des choses, etc. Et puis aujourd'hui, quand je relis ce livre-là, je me rends compte que c'est tellement dépassé. Ça n'a pas résister, à mon avis, au temps, en fait.
L'idéologie qui avait pris le pas sur
le romanesque.
Sur le romanesque. Akira Mizubayashi, vous êtes dit ça aussi en écrivant Âme brisée. Comment je vais faire, justement, pour que l'idéologique ne prime pas sur le romanesque et même sur le poétique?
Mais quand j'ai conçu cette histoire, je n'avais pas du tout de message politique à...
Non, parce que c'est la guerre, des soldats qui fracassent un violon, qui empêchent des artistes de créer.
Oui, mais ce sont des faits réels. Oui. C'est le contexte de la guerre sino-japonaise que j'ai revisité à travers mon père. Je n'ai évidemment pas vécu cette période-là.
Oui, mais le sujet, il est universel, Akira Mizubayashi. Cette scène où des soldats cassent un violon pour empêcher des gens pacifiques musiciens de jouer ensemble, emmène des artistes ou emmène des intellectuels, où qu'on soit dans le monde et où qu'on soit dans l'histoire, le message politique est fort. La guerre empêchant la beauté, étouffant la beauté.
Oui, mais je dirais que c'est presque un prétexte pour raconter cette histoire. Pour moi, ce qui était important, c'est de me demander comment ce personnage qui vit dans la zone de catastrophe où le temps s'est arrêté, comment il va s'en sortir, comment il va sortir de ce temps qui ne passe plus pour lui. Et j'ai tout mon plaisir a consisté à imaginer la voie par laquelle il peut justement sortir de ce temps fossilisé.
Donc c'est pas un livre sur la beauté, sur la création, sur l'émotion artistique qui aide à réparer ce qui a été cassé par la folie, la barbarie des hommes.
Mais il se trouve que la question qui s'est peut-être il s'est pas posé en termes extrêmement explicites, comment sortir de cet état-là, comment sortir de cette zone de catastrophe, il se trouve que la voie qui s'est ouverte devant lui, c'est celle de la musique qui était la passion de son père, et puis en même temps, c'est celle de la littérature qui était sa propre passion quand il était petit, et c'est uniquement par cette voie-là qu'il a vu que le temps se défossilisait. Et je crois que j'utilise quelque part ce verbe « se défossiliser ».
Exactement.
Voilà donc le mon souci principal, c'était de suivre le destin de ce petit garçon qui a été coincé dans le à cause de la grande histoire, à cause de la violence de l'histoire.
Dans cette faille du temps. Je l'ai la phrase. Le temps se défossilisait, recommençait à trembler. D'ailleurs, elle peut être prise dans deux sens. Elle peut être très inquiétante, cette phrase. Le temps qui recommence à trembler.
Oui. Ben, c'est-à-dire, voilà. C'est la vie qui tremble.
Oui.
Oui.
Jusque-là. Peut-être.
Oui.
Je rappelle donc l'intrigue avant d'écouter votre choix musical, Akira Mitsubayashi, puis on aura de la chance qu'on va écouter votre choix musical et ensuite la transcription en mots de ce morceau que nous allons écouter. Puisque dans Âme brisée, on est en 1938, donc en pleine guerre sino-japonaise, et un professeur d'anglais, un japonais, un musicien amateur qui s'appelle Yu, répète, joue avec trois musiciens chinois, à Tokyo, donc lui il est japonais, il répète avec des musiciens chinois, il joue Rosamund, donc le quatuor à cordes en la mineure de Schubert, et pour les soldats qui arrivent, c'en est trop, il fracasse, il brise le violon de Yu sous les yeux de son fils qui est caché dans une armoire, le père est embarqué par la patrouille, et en fait un soldat, un officier qui n'a pas perdu toute son âme, transmet et ne dit pas que le petit garçon est là, et lui transmet justement ce violon brisé. Il a 11 ans, il a plus de mère, il a plus de père, uniquement cet instrument, le cadavre fracassé de cet instrument, et puis il part en France, il va se réenraciner.
Oui, parce que le personnage du père, c'est quelqu'un, c'est un professeur d'anglais, mais il a le courage d'apprendre le français en même temps.
Exactement. Comme vous,
grâce à l'aide d'un journaliste français qui vivait à cette époque-là à Tokyo.
Exactement. Et tout le chemin du livre va être l'histoire de ces fils, d'ailleurs, qui se retissent. Alors, il y a une personnage de femme magnifique aussi, une violoniste, une archétière, lui devient luthier. Et en fait, il s'agit à chaque fois de réparer par la musique, par l'art, ce que la politique, ce que le conflit des hommes avait cassé. Il y a une phrase qui est très très belle, Akira Mitsubayashi, la mélancolie est un mode de résistance. C'est ce que vous écrivez dans votre livre. C'est résister contre quoi ?
Mais c'est résister... contre le monde tel qu'il va, c'est une phrase qui m'est venue tout naturellement, parce que la mélancolie, c'est l'expression d'un certain malaise, et c'est une manière de tenir à distance le monde dont on est témoin, dans lequel on vit également. Et le choix du quatuor de Schubert, Rosamunde, s'est imposé à moi tout naturellement, parce que c'est une musique tellement mélancolique, surtout le premier mouvement, et le second mouvement est d'une infinie tendresse. Donc c'était tout le contraire du contexte belliciste de l'époque.
Et un mot sur ce morceau qu'on va écouter, qui n'est pas Schubert mais Bach, la gavotte en rondo.
Alors ça correspond un peu à la nécessité narrative du roman. À un moment donné, donc au moment de l'interrogatoire, le lieutenant qui n'a pas totalement perdu son âme, il veut montrer aux autres soldats que c'était effectivement une répétition de musique du quatuor de Schubert. Il ose demander au personnage du père de jouer un petit morceau. Donc il fallait que ce soit court et il fallait que ce soit un morceau auquel tous les amateurs du violon sont extrêmement attachés, d'où le choix de gavotte en rondo.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Thank you. C'était Jean-Sébastien Bach, Gavotte en rondo, interprété par Yehudi Menuhin. C'est le choix d'Akira Mizubayashi qui publie Âme brisée chez Gallimard. Il est accompagné de Louis-Philippe D'Alembert qui publie Mur Méditerranée chez Sabine Vespizer. Alors c'est, on va maintenant vous entendre, Akira Mizubayashi, lire un extrait qui correspond à ce qu'on vient d'écouter. Donc c'était interprété par Yehudi Menuhin. On vous écoute sans tarder.
Donc c'est le moment où le personnage du père doit prouver qu'il est réellement musicien. Donc il choisit un petit morceau de Bach, Gavotte en rondo en l'occurrence. Et voilà, c'est comme ça que j'entends cette musique. Se baissant, se relevant, balançant son corps à droite et à gauche, Yu jouait les yeux fermés. Le morceau avait démarré sur un thème sautillant, jovial, épanoui, comme pour accompagner un adolescent de la ville parti en promenade à la campagne, par un matin ensoleillé, poussé par le bonheur d'exister, aiguillonné par la curiosité de découvrir la beauté du paysage environnant. À un moment donné, la musique avait changé de couleur et d'atmosphère, comme si elle traduisait l'inquiétude refoulée de l'adolescent, voyant s'amonceler subitement un gros nuage noir dans le ciel, radieux quelques minutes auparavant. Mais ce n'était qu'un assombrissement passager. Peu après, le thème enjoué du début revenait. Combien de fois l'avait-on entendu, déjà, ce motif souriant, pétillant? On sentait dans ce retour insistant, dans ce désir de le broder indéfiniment, l'inaltérable attachement du compositeur à cette petite mélodie folâtre, comme l'affection inconditionnelle qu'on éprouve pour une chanson simple apprise dans l'enfance, palpitant au fond de soi de façon ininterrompue comme une source d'eau intarissable, prête à rejaillir à tout moment de l'âge tendre à la vieillesse avancée. Mais il fallait que la balade prît fin. La musique se ralentit brusquement. Le corps du violoniste, oscillant de droite à gauche, de gauche à droite, s'inclina tout à coup, comme s'il lui fallait concentrer toute son énergie sur la définition de la dernière apparition du thème, jusque-là façonné de plusieurs manières subtilement différenciées. Le morceau avait duré à peine 3 minutes. 3 minutes pendant lesquelles les notes de musique s'égrenaient comme une enfilade de gouttes d'eau argentées sur une feuille de bambou après une forte averse. Lorsque l'archer se détacha des cordes, la dernière note fut suivie d'un long silence.
Merci Akira Mizubayashi pour cet extrait de Âme brisée, votre roman chez Gallimard. À vous entendre lire, on entend un français alors, magnifique, à la fois simple et d'une grande élégance. On sent que vous faites attention aux détails les plus infimes de cette musique et vous convoquez aussi des sensations qui n'ont a priori rien à voir avec la musique, mais la nature sans les hommes, hein, avec ces gouttes d'eau sur le bambou. Est-ce que vous faites une hiérarchie, il est beaucoup question de musique dans ce livre, est-ce que vous faites une hiérarchie entre l'art des mots et l'art des notes, entre la littérature et ce langage au-delà du langage qui est la musique?
Ce sont deux formes d'art auxquelles je suis profondément attaché. Moi, il se trouve que je suis pas musicien, j'aime passionnément la musique. Et ce que j'entends, ce que je crois entendre dans les morceaux de musique que j'aime infiniment, parfois j'ai envie de traduire l'émotion suscitée par la musique en mots. Voilà, c'est parce que c'est le seul moyen d'expression dont je dispose. Donc je ne veux pas hiérarchiser. Je ne pense pas que la musique soit supérieure à la littérature.
Certains écrivains le disent, hein, même ici, on l'a entendu ici,
que la
musique est supérieure à leur art. Qu'est-ce que vous en pensez, Louis-Philippe D'Alembert ?
Non, je ne dirais pas que la musique soit supérieure, mais en même temps, quand on est écrivain, dans mon cas, je suis aussi poète, j'ai tendance parfois à lire à haute voix pour retrouver cette musique des mots. Je ne peux pas me contenter de lire seulement dans ma tête, comme on dit. Par exemple, dans ce roman, il y a tout un passage où il y a un gospel, Joshua Fett, The Battle of Jericho.
Les fameuses trompettes de Jéricho.
De trompettes de Jéricho. Et là, j'ai dit le texte à haute voix plusieurs fois pour trouver la musique. Mmh. C'est vraiment cette musique des mots qui m'a dicté, j'ai envie de dire, tout le sens de ce passage, en fait.
Mais vous dites pas nous, je dis nous, Akira Mizubayashi et vous, Louis-Philippe d'Alembert, vous dites pas, mais au fait, on a des mots, mais donc on est contraint par une langue. Alors, la différence, c'est que c'était pas votre langue natale, Akira Mizubayashi, parce que vous avez appris le français, vous parlez merveilleusement bien, mais au fond, c'est moins universel que la musique.
Il y a une forme, en ce qui me concerne, j'ai envie de dire, il y a quand même une petite pointe de frustration.
Sachez-vous.
Non, c'est comme je suis pas musicien, je ne peux pas faire de la musique, donc je choisis mes mots. C'est vrai que vous avez raison de souligner que il y a de la musique dans toutes les langues et dans tous les agencements de mots. Et ce qu'on essaye de réaliser, c'est de créer une sorte d'œuvre musicale à l'intérieur de notre langue. Et peut-être si j'ai été extrêmement séduit par cette langue étrangère qu'est le français et qui est devenue une langue par rapport à laquelle je me sens extrêmement proche, il y a indéniablement un sentiment de proximité affective par rapport au français, parce que le français me donnait une autre possibilité de manifestation musicale. Il est certain que toutes les langues produisent une musique différente. Et la musique que j'entends dans la langue japonaise n'est pas du tout la même que celle que j'entends dans la langue française.
Est-ce que vous pourriez préciser, parce que quand vous disiez j'entends quelque chose de différent dans la langue japonaise de ce que j'entends dans la langue française, moi j'aimerais bien, enfin, je pose vous aussi, Louis-Philippe, oui, dans la langue, qu'est-ce que vous entendez dans la langue française que nous on n'entend peut-être pas?
Oui, c'est peut-être cette musique n'existe que par la différence.
C'est quelle musique qu'est-ce qui vous plaît tant dans notre langue?
Je sais pas, c'est peut-être le nombre de voyelles qui est peut-être trois fois supérieur à celui de la langue japonaise. Non, je peux pas rationaliser la musique que j'entends dans la langue française. Par contre, par exemple, quand je lis des haïkus de Basho en japonais, j'entends une musique extraordinaire. Mmh. Et ce qui est extrêmement frustrant, quand je lis les haïkus traduits en français, alors cette musique disparaît totalement.
On a perdu. Vous avez, Louis-Philippe d'Alembert, vous, une possibilité aussi que d'autres écrivains d'expression française n'ont pas, c'est qu'il y a le créole aussi, qui est assez génial. Ça permet aussi de modifier la musique, de jouer aussi sur une partition légèrement différente.
Il y a le créole qui nous apporte un imaginaire, mais il faut le dire, dans notre cas de Caribéens, surtout ceux qui sont nés en Haïti ou ont grandi en Haïti, le français a toujours été placé, on va dire, sur un piédestal parce que c'est une langue qu'on a apprise d'abord dans les livres. Très jeune, bien sûr, mais dans les livres, c'est-à-dire avec un certain niveau. Vous parliez tout à l'heure des Lumières, donc en étudiant des auteurs français du 16e, du 17e, du 18e siècle, qu'on connaissait par cœur. C'est-à-dire qu'on n'avait pas un français, j'ai envie de dire, de tous les jours. Le français de tous les jours, en fait, je l'ai appris ici, en France. Donc, le français va être frotté, j'ai envie de dire, à l'imaginaire créole, mais dans mon cas précis, plus que il y a le créole, il y a aussi l'italien qui est très très présent parce que j'ai beaucoup vécu en Italie et j'ai beaucoup travaillé en italien aussi, et l'espagnol aussi. Donc c'est-à-dire quand j'écris en français, il y a toutes ces langues qui sont convoquées d'une certaine façon. Qui
la fait fameuse créolisation dont
on parlait Édouard Glissant. Ouais. C'est-à-dire que Édouard Glissant peut-être en parlait par rapport uniquement à la langue créole, alors que justement, dans mon cas précis, il y a l'italien, il y a l'espagnol qui sont des langues avec lesquelles je vis de manière très très rapprochée, en fait.
Et de Glissant au glissement de l'archer sur les cordes du violon. On a parlé beaucoup de musique aujourd'hui, mais il était question aussi de voix humaines, notamment les voix de vos femmes dans Mur Méditerranée. Louis-Philippe d'Alembert, merci beaucoup
pour avoir été
notre invité. Merci beaucoup Akira Mizubayashi.
C'est moi.
Voilà,
moi qui vous remercie.
Pour cette âme brisée chez Gallimard. C'était déjà le temps des écrivains avec Anne-Catherine Lochard et la complicité de Tsolak Paloyan, Jean-Christophe Francis à la réalisation et Claude Nior à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter. Podcaster pour réécouter à l'infini sur franceculture.fr 7h avec Akira Mizubayashi, donc âme brisée chez Gallimard, et Louis-Philippe d'Alembert, Mur Méditerranée chez Sabine Vespizer.